Hubert Artus, vous êtes journaliste et chroniqueur littéraire pour le site Rue 89, pour le mensuel L'Optimum et pour France Inter. Et vous êtes l'auteur de Don Quifoute, dictionnaire rock historique et politique du football. Alors, vous n'êtes pas à proprement parler à un journaliste sportif. Qu'est-ce qui vous a poussé à écrire cet ouvrage ?
C'est le fait que je suis complètement passionné de football depuis 38 ans, parce que j'ai 38 ans. J'ai deux grandes passions, la littérature et le football. La littérature, j'en ai fait mon métier par le journalisme, et le football, j'en ai fait un livre, donc la vie est belle. Moi, je suis ce qu'on appelle un enfant de Séville, en fait. C'est-à-dire que le premier match de ma vie que j'ai regardé en direct, c'est la fameuse demi-finale de la Coupe du Monde 1982 RFA France. Qui est à la fois un grand match de football au niveau du jeu, qui est une grande dramatique parce que l'Allemagne mène et puis la France égalise, puis la France a deux buts d'avance en prolongation, puis se fait rattraper, puis perd au tir au but. Il y a l'agression du gardien allemand Harald Schumacher contre Batiston. Il y a les exploits de Giresse et de Marius Trésor. Il y a le fait que ce match, le footballeur français Jean-François Larios ne l'a pas joué parce que apparemment Michel Platini ne voulait pas qu'il soit sur la feuille de match parce que Larios avait couché avec la femme de Platini quelques années auparavant à Saint-Etienne, lorsque les deux jouaient à Saint-Etienne. Donc il y a tout dans ce match-là, si vous voulez. Il y a une dramatique personnelle, il y a une tragédie, il y a une injustice, puisque la faute de Schumacher sur Batiston n'a jamais été sifflée. Et puis il y a la beauté, le suspense. Donc il y a tout dans ce match. Moi, je suis un enfant de ça, mais comme beaucoup de gens de ma génération, hein, moi je suis né en 73, il y a beaucoup de gens qui sont tombés dans le foot par cette dramatique-là, et c'est après, en différé, en voyant les matchs au magnétoscope, que j'ai vu l'épopée verte qui avait eu lieu 6 ans avant et qui dans lesquelles sont les racines en fait du rêve bleu qu'il y a eu entre 1982 et 1986. Voilà, je suis un enfant de ça, moi.
Question importante pour savoir si on peut ou non continuer cette interview. Vous êtes supporter de quelle équipe de football en particulier ?
De l'OM.
Ça va, on peut continuer l'interview alors. Alors, ce dictionnaire rock historique et politique du football, ça parle de football, mais au travers de différents prismes, hein, l'histoire, la politique, le rock. Comment vous y êtes pris pour travailler, pour élaborer ce dictionnaire ?
Le contenu du dictionnaire, le fait que je contrecolle sans cesse politique, histoire des hommes, histoire du football, le microcosme du football, macrocosme de l'histoire, ça c'est parce que c'est comme ça que moi je vois aussi le football. Je le vis comme un supporter de l'OM, je le vis comme un journaliste, je le vis comme un passionné de football, des exploits, de la beauté chorégraphique du football, de la culture foot qui est faite de pop, de bistrot, de camaraderie, de chant, d'humour, de boisson, etc. Mais voilà, je contrecolle aussi cette passion à la citoyenneté, à la notion de classe sociale, à l'histoire du monde, etc. Donc voilà, j'ai voulu, moi, faire un livre qui retrace le football entre 1868, la date où ça a été inventé en Angleterre, et nos jours, en reculant aussi jusqu'à moins 2000 avant notre ère pour présenter les 4-5 sports, le cuju, le mob football, le calcio et évidemment la soule qui s'apparente au football. Voilà, donc entre 1868 et maintenant, je retrace l'histoire du football à travers le contexte historique que le monde a traversé. Voilà, donc j'ai voulu montrer comment est-ce que le football est un sport noble et bourgeois à la base, puisque ça a été inventé par des étudiants à Cambridge et à Oxford à l'époque, donc où il n'y avait que des bourgeois qui allaient dans ces écoles-là. Les nobles ne jouent qu'entre eux, puis après les ouvriers se mettent à jouer aussi également entre eux de leur côté, et puis un beau jour des équipes d'ouvriers veulent rencontrer des équipes de nobles, et puis un jour les ouvriers gagnent, et c'est comme ça que le football devient un sport ouvrier, puis populaire, et puis qu'il passe la Manche, qu'il arrive en Europe, etc. Après, le football est à la fois accaparé par des dictatures, nazis, fascistes, etc. Il participe aussi à des faits de résistance pendant la Deuxième Guerre mondiale, et puis aux indépendances des Afriques. On se rappelle le combat de l'équipe du FLN qui s'est monté dès 1958 avec des footballeurs qui étaient français, ils étaient algériens mais français, puisque l'Algérie était française. C'est Rachid Mekloufi, par exemple, qui s'en vont de France, alors que Rachid Mekloufi, déjà deux fois champion de France avec Saint-Etienne à l'époque, avait eu 4 sélections en équipe de France, donc il avait porté le maillot du coq, et il déserte la France, et il gagne Tunis, où se monte alors l'équipe du FLN, qui naît donc 4 ans avant l'indépendance. Voilà, le football a participé de ça, et puis ensuite aussi le football a participé du du côté sombre des choses, à savoir le foot business qui marque toujours le football aujourd'hui, puis le dopage, etc. Voilà. J'ai voulu retracer tout ça.
On va reparler après du foot business si vous voulez bien. Juste quelques éléments aussi sur ce dictionnaire. Hein. Donc ça marche par mots clés. Donc notamment il y a des mots clés qui sont le printemps arabe et puis ce qui s'est passé aussi entre le Honduras et le Salvador. Est-ce que vous pouvez nous parler de ces deux chapitres en particulier?
Le mieux c'est de lire, mais en gros j'ai voulu montrer comme quoi comment ce que voilà le football en gros mon dictionnaire va de A à Z puisque c'est un dictionnaire, ça va de A comme Ajax à Z comme Zoff, le gardien italien champion du monde en 1982, en passant par Zidane, cocaïne, Ephedrine, Mayo, Platini, Garincha, Pelé, mais aussi Knysna, Anelka, etc. Donc évidemment, il y a au chapitre à l'entrée guerre, et ben j'ai voulu raconter comment les éliminatoires de la Coupe du Monde 1970 ont provoqué une guerre entre le Salvador et l'Honduras, une guerre qui a duré 3 jours. Et puis alors évidemment, printemps arabe. Alors le printemps arabe n'était pas dans la première version, puisque la première version est parue au mois de mai 2011, mais j'avais fini de l'écrire en décembre 2010, donc avant. Enfin, à l'époque, le printemps arabe commençait à peine à éclater en Tunisie, mais on n'appelait pas encore ça printemps arabe. Et puis, lorsque j'ai fait la version réactualisée, donc celle que vous avez, celle qui est en vente maintenant, j'ai réactualisé 40 entrées et j'en ai rajouté 7. Essentiellement du football féminin, mais aussi Cannes pour Coupe d'Afrique des Nations, CR7 pour Cristiano Ronaldo, c'est son surnom, et donc printemps arabe. Parce qu'il se trouve que en Égypte, en Tunisie et en Libye, des ultras, des clubs de supporters, des ultras, donc pas des hooligans, mais quand même des gens qui rigolent pas, et ben on fait partie des mouvements en question. Et par exemple, au début du mois de février dernier, lorsque un match de football en Égypte a dégénéré sur une grosse baston et sur des morts, et ben c'était des supporters qui se vengeaient sur un autre clan de supporters. Et le clan de supporters qui en a été victime, ça a été ceux qui ont servi de garde du corps, en fait, au printemps arabe de la place Tahrir au Caire, puisque ceux qui ont assuré le service d'ordre, en gros, les petites mains et les gros bras de ce printemps arabe, bah, c'était les clubs de supporters d'un club du Caire. Et c'est ceux-là qui se sont mangés des supporters d'un club provincial adverse au début du mois de février. Donc là aussi, on voit que le football, par le supporterisme, par des compétitions internationales, par moult choses, a très souvent à voir avec la citoyenneté, avec l'histoire, avec la politique d'un pays. C'est pour ça que, mon dictionnaire, il y a beaucoup de ça. Alors, il y a aussi beaucoup d'humour, il y a aussi beaucoup de sport, il y a aussi beaucoup d'utopie, beaucoup de belles histoires, parce qu'en fait, chaque entrée est une anecdote. Une anecdote que j'ouvre sur une définition, ensuite. Corse, Platini, Maradona, une définition ou un portrait. Voilà. Et donc, printemps arabe, c'est une entrée assez longue parce qu'il y avait 3 pays à radiographier. La Tunisie, la Libye et l'Égypte. 3 pays où, pour le moment, le printemps arabe a débouché sur une destitution du despote.
Courir est une chose, marquer en est une autre. Jouer, voilà le mot, et si possible avec les autres. J'exprime un avis qui vaut qu'on lui souffle dans le dos. Et j'ajoute un dicton. Chasser le naturel, il revient au ballon. Le coup d'envoi est donné. Tu ouvres les yeux et tout autour de toi des tours. Et les tours, quand on en a fait le tour, on dit c'est pas gagné.
Tu fais le tour des tours.
C'est pas ici qu'on verra naître les concours.
Le premier cri retentit dans un couffin pour certains. Quand on n'a pas de grade, il retentit dans un stade. Ainsi va la vie, on pose une candidature. Et toi sur le terrain, tu vas chercher une écriture.
Le ballon, c'est ta plume, ta feuille, le bitume. Tu es comme une fable, toi le lion indomptable. C'est pas des fariboles, vous vouliez un symbole. Le Cameroun est le champion du monde de football. L'Algérie est le champion du monde de football.
On va parler un petit peu de foot business. Je ne sais pas si vous avez lu dans le dernier Monde Diplomatique, hein, celui du mois de juin, il y a un article un peu sur l'endettement des clubs.
Je n'ai pas encore lu, non, mais bonne info.
Alors, qu'est-ce que vous pensez de manière plus générale du foot business et de l'évolution du football?
Bah, on peut pas en penser du bien. Bon, là, pareil, hein, j'ai fait une entrée exprès sur foot business où j'explique en gros, où je décrypte plutôt les cinq grandes causes du foot business qui vont de la prépondérance des agents, aux droits télé, à la façon dont la Coupe d'Europe des clubs champions a été refaçonnée en Champions League pour correspondre aux télévisions. Voilà, je décrypte les causes de tout ça. Alors, bah, c'est un épiphénomène, si vous voulez. Le foot business, c'est un des plusieurs enfants bâtards de l'ultralibéralisme. Donc, puisque le monde, globalement, va vers l'ultralibéralisme, bah, le sport, globalement, va vers le sport business. Et comme le foot, c'est le sport le plus populaire, le plus partagé de toute la planète, celui qui, dans les compétitions internationales, sont avec les Jeux Olympiques, celle qui rapporte le plus d'argent et qui génère le plus de droits télévision, bah forcément, c'est là où on trouve le plus de déréglementation. Et cette déréglementation s'appelle le foot business. Donc moi, j'ai fait une entrée foot business, j'en ai fait une sur G14 aussi, qui était au début des années 90, 14 présidents de 14 clubs européens. En France, il y avait le PSG et l'OM, puis il y avait le Milan AC, la Juventus de Turin, etc., qui ont voulu sortir de l'UEFA, en fait, qui ont voulu commencer à organiser eux-mêmes un espèce de mini-championnat fermé à 14. Alors l'UEFA a finalement obtenu gain de cause et n'a pas autorisé la tenue de cette déréglementation. Mais elle a failli avoir lieu sous l'égide en particulier de Silvio Berlusconi. Voilà, donc on peut pas en penser du bien. Moi, je suis quelqu'un profondément attaché à la citoyenneté des choses, à la justice et la justesse des choses, à l'égalité entre les peuples, au partage de différentes choses, dont le temps de travail, etc. Donc vous voyez à peu près vers quel côté politique je pense, et mon livre ne s'en cache pas. On peut pas être d'accord avec le foot business, on peut pas être d'accord avec un Samir Nasri qui gagne 1 million d'euros par mois. Il fait ce qu'il a à faire, mais enfin, il y a aucune redistribution, tout ne passe pas dans l'impôt, etc. Donc on peut pas être d'accord avec un tel écart entre les 100 footballeurs les mieux payés de la planète et puis les millions d'autres footballeurs et les dizaines de milliers de footballeurs professionnels qui gagnent bien moins. Il y a une telle déréglementation que c'est pas possible. Donc on peut pas, si vous me demandez ce que j'en pense, j'en pense beaucoup de mal, forcément, mais on peut pas aimer le football et aimer le foot business. Mais le foot business est une verrue, une gangrène, mais c'est plus qu'une ortie, c'est une gangrène, une verrue dont je doute qu'elle partira un jour du football. Mais c'est pas parce qu'elle foot business qu'il faut détester le football, il faut continuer à aimer le football parce qu'il y a quand même beaucoup d'autres choses dans le foot business. Il faut garder confiance en le foot malgré le foot business, comme il faut garder confiance en la politique malgré les arrangements entre candidats et entre politiques.
Alors, votre dictionnaire, c'est aussi la recherche d'une autre manière de parler du football, une autre manière qu'on retrouve, bon, par exemple, je sais pas, dans le magazine SoFoot, mais aussi peut-être dans d'autres livres qui parlent de football autrement. Alors, peut-être un mot sur cette recherche de parler autrement du football.
Il n'y a aucune recherche de parler autrement du football. Il y a la recherche de parler du football. Après, le football, il y a plusieurs façons d'en parler. On parle soit des résultats, donc de l'efficacité des équipes, des clubs, soit on en parle de façon économique, soit on en parle de façon culturelle, soit on en parle de façon politique, etc. Il n'y a pas une recherche de parler autrement du football, il y a une recherche de parler du football de la façon dont on le sent. Alors, peut-être que, générationnellement, ceux qui ont monté SoFoot, qui est un magazine où moi j'ai écrit en 2005 et 2006, peut-être qu'il se trouve qu'on est plus ou moins de la même génération, peut-être qu'il y a une façon commune de voir le football et de le lier à la culture, de le lier à la musique, de le lier à la politique, de le lier au look, à la mode, aux fringues, à la manière de vivre, etc. Mais c'est pas une recherche de parler autrement du football, hein. C'est si visible parce que peut-être que en même temps, il y a eu plusieurs personnes d'une même génération ou d'un même rapport au sport qui ont trouvé le moyen d'en parler. Mais il n'y a pas de recherche de parler différemment du football. Il y a une recherche de parler du football comme on le vit. Moi, je précise que j'ai 38 ans et depuis très longtemps, je lis France Football toutes les semaines. Je suis pas comme Thierry Roland, j'ai pas tous les numéros de France Football, mais voilà, moi je lis à la fois SoFoot, France Football et l'équipe, tout le temps. Et quand je vais en Angleterre, je lis 4-4-2, 4-4-2, qui est en gros l'ancêtre de SoFoot. Voilà, donc c'est un mélange de tout, hein, et mon livre, j'espère qu'il s'en ressent, parce que c'est pas que SoFoot, c'est vraiment tout, quoi. Hein.
Hubert Artus, auteur du Donkey Foot, dictionnaire rock, historique et politique du football, c'est sorti aux éditions Don Quichotte. A noter que la préface est signée du rappeur Abdelmalik.